C'est vrai qu'on est très ému avec ce film et puis ça remue une histoire longue et puis ça remue aussi tout ce qui va suivre, c'est-à-dire tout ce qui va suivre, c'est ça le problème. Et alors, dans cette partie de la table ronde, maintenant, donc on va faire le lien entre ce qu'on va essayer de faire demain et après-demain, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le désexil de l'exil, qu'est-ce que c'est au fond? Et créer une université libre pour qu'elle continue, eh bien, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, je vous invite tous ceux qui êtes là ce soir à venir à la fête, si vous ne pouvez pas ces 2 jours, mais à venir à la fête de demain soir, et puis à continuer tout cela. Et on a les artistes, c'est extraordinaire, qui sont là, et je suis très, très émue. Et je suis d'autant plus émue que Joao, on l'a accueilli quand il est arrivé en 73, et sa fille parle aujourd'hui, et sa fille fait un film, c'est extraordinaire ça quand même, aussi pour la mémoire. Mais bon, alors maintenant, on va peut-être donner la parole, il m'incombe dans la coordination, de donner la parole à ceux qui ont témoigné, et donc à Jean Sigler. Voilà, je commence par Liliana. Voilà, je te passe la parole.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Moi, on m'avait. Déjà, j'aimerais dire un peu ce que ça a été l'expérience d'être contactée pour participer et donner mon témoignage pour ce film. Cela se passait pour moi en juillet 2012-2013. 2012, et c'était une des premières fois où je témoignais vraiment pour dire est-ce que c'était passé, comment ça s'était passé. C'était quelque chose qui a duré quelques 2 heures, un entretien qui a duré 2 heures, et même plus peut-être. Et c'est vrai que d'abord, dans le premier film, La barque n'est pas pleine, quand je voyais qu'il y avait 2 minutes, peut-être, de ce que j'avais à raconter, c'était quand même resté un goût un peu étrange. Et le film de Yara aujourd'hui, si vous voulez, il compense ce manque que j'avais ressenti. C'est vrai aussi que je sais très bien que c'était basé sur l'accueil des Chiliens par les places gratuites, donc cette action menée par la société civile. Et je comprenais parfaitement que mon témoignage, à ce moment-là, il était... C'était ça, ce qu'il fallait montrer. Voilà, ça pour l'expérience de participer dans ce documentaire. Après, j'aimerais vous raconter un peu ce que je fais maintenant. Maintenant, je reviens, ça fait un mois, je suis revenue du Chili où j'ai été pour présenter, parce que je travaille en ce moment avec une compagnie de théâtre qui s'appelle Alternance. C'est une compagnie de théâtre qui travaille entre la Suisse et le Chili. Il est dirigé par une Chilienne, actrice chilienne, et c'est elle qui a mis elle a mis sur en scène une pièce qui s'appelle Patria. Et cette pièce, elle raconte l'histoire de la violence, pas seulement. Donc, c'est des témoignages qui ont été mis en forme théâtrale. Et ça raconte l'histoire de la violence, pas seulement la violence comme celle qui a été. Mis sur pied au Chili durant la dictature, même s'il y a 3 de ces pièces, de ces témoignages qui racontent ça. Ça raconte aussi des témoignages de personnes qui ont participé d'un kamikaze en France, et aussi des femmes qui ont été, les collégiennes qui ont été prises par le mouvement Boko Haram. Et on a présenté ça au Chili, et ça avait été présenté déjà ici, et là au Chili, j'ai pu participer. On devait passer dans un théâtre qui est dans son site. Il y avait eu des menaces et des gens qui disaient « Mais partez, communistes, mourrez, qu'est-ce que vous allez raconter ces choses-là » parce qu'on racontait des choses sur la dictature. Ça d'un côté. Ça donc, cette haine qui est ressortie, surtout parce qu'ils sont au pouvoir en ce moment, parce que le gouvernement du Chili, c'est un gouvernement de droite. Et ça faisait que, oui, ça faisait une certaine peur. Mais d'un autre côté, quelque chose qui a été très encourageant et qui va dans le sens de l'espoir qui renaît et qui nous met vraiment des envies de continuer à faire de la mémoire, à montrer ce qui s'est passé, à dire ce qui s'est passé. C'était un collectif qui s'appelle Collectif Mémoire Désobéissante Chilienne, qui est un collectif qui sont des enfants, des tortionnaires, des enfants, des personnes qui ont participé vraiment activement à des tortionnaires, les plus gros tortionnaires. Et ces enfants ont décidé de dénoncer et de dire ce qu'eux, ils ont vécu, et d'essayer d'instaurer au Chili une loi qui permette aux enfants de dénoncer ce que leurs parents ont fait. Avant, c'était jusqu'à maintenant, c'est interdit. Donc, l'enfant d'un tortionnaire ne pourra pas dire « Mon père, c'est un tortionnaire. Je sais qu'il sait. Je sais qu'il sait très bien où on a caché le corps. » Et des choses comme ça. Et donc, ce collectif tout neuf, hein, il vient vraiment de se mettre sur pied. Et d'ailleurs, eux, ils ont écrit dans le mur, dans le web de ce théâtre pour dire qu'ils nous défendaient, qu'ils prenaient vraiment notre défense, qu'ils trouvaient que c'était très important le travail qu'on était en train de faire. Voilà, ça pour vous dire qu'il y a de l'espoir. C'est une génération qui a la quarantaine. C'est la génération qui est née entre 73, 74, 75, 76. Et ces gens-là, ils sont vraiment, vraiment très, très debout, en train de donner vraiment, de se donner en entier. Et ça, pour les gens du théâtre aussi avec lesquels je travaille, les acteurs au Chili, c'est tous des acteurs de cette génération. Et le public qu'on a eu, c'était que, ou presque, des jeunes. Et des jeunes qui étaient heureux qu'on leur raconte ça, heureux, et nous remerciaient vraiment en disant « on en a vraiment besoin, l'ambiance du négationnisme, ça nous fait vraiment… on ne peut pas la supporter ». Et justement, à ce moment, il y a aussi des mouvements très forts qui se font de nouveau, qui reprennent l'éducation. En ce qui concerne l'éducation au Chili, le gouvernement est en train de mettre en place de nouveaux projets et de nouveaux programmes dans lesquels ils entendent laisser ce qui est l'éducation physique, l'art, et l'histoire comme optative pour les jeunes à partir de la deuxième année de l'école secondaire. Et donc, d'essayer d'effacer des choses qui pourraient venir et donner un sens critique encore plus fort à ces jeunes. Là, il y a des manifestations pendant ces jours qui se font vraiment très, très fortes et tout le monde contre ce projet de loi. Il y a aussi une loi qu'ils ont instaurée qui s'appelle l'OLA sûre, la salle de classe sûre, qui permettrait de regarder dans les sacs à dos des jeunes, dans leurs cahiers, et cela aussi est contesté vraiment avec une très, très, avec une force énorme. Donc, c'est vrai que d'un côté, on a en Amérique latine ce ressurgissement des droites, et aussi en Europe, disons que c'est un peu partout. Mais il y a aussi la résistance, elle continue. Et ça ne s'arrête pas, parce que les gens ils prennent conscience de plus en plus de ce qui se fait. Merci.
Merci Liliana. Ça, des informations très importantes. Et dans le réseau d'Université Libre, on sera heureux de le relayer. D'accord ? Je passe maintenant la parole à Teresa Veloso.
Hace muchos años que no estoy en Suiza, así que Marie-Claire va a tener que traducir un poco. Son ideas, cuatro ideas que quisiera plantear respecto a la memoria. Después de 30 años de democracia en Chile, muchos confiamos que se iba a investigar la violación a los derechos humanos. Los que fuimos prisioneras y prisioneros políticos, cometimos un error, confiamos y creímos esto, en estos, comillas, nuevos políticos que asumieron el gobierno estableciendo reformas básicas, pero continuaron gobernando con la misma constitución de los años 80, haciendo alianzas con los patrones y la derecha chilena. La segunda es una pregunta. Después de este film, yo ya había trabajado, había comenzado a trabajar con el Colegio de Filosofía, con Marie-Claire, sobre el tema de la memoria. Entonces, no me voy a referir a lo que dije en aquella época, la mantengo, pero refleja lo que estoy planteando ahora, refleja mis reflexiones posteriores. Cuán importante. Y uno aprende de la violencia y de la memoria, y dentro de la memoria comienza a diferenciar lo que nosotros planteamos, por qué hay que reconstruir la memoria histórica. Las respuestas parecieran obvias, porque todavía quedamos sobrevivientes, Lilian, yo y otras que están en la sala, de aquella época, más viejos, canosos, enfermos, pero tenemos aún que continuar este gran desafío pendiente, conocer la verdad y justicia para nuestros caídos. Yo sé que es un trance que duele mucho, sobre todo los que constantemente estamos declarando por nuestros compañeros caídos. No es fácil revivir la historia una y otra vez. Duele, porque pronto serán 46 años del golpe militar, y aún no sabemos toda la verdad qué pasó realmente en Chile, y yo osaría decir en América Latina. ¿Cómo se reconstruye la memoria de un pueblo frente a todas las atrocidades vividas? Esto es producto de mis 30 años en Chile. La sociedad civil tiene mucho que decir y no se ha escrito, no se ha firmado, no se ha grabado. Que participó y estuvo en la lucha antidictatorial, que estuvo presente de manera directa o indirectamente, pero su historia individual o colectiva la guardaron porque la represión y el miedo se apoderó de ellos, y es humano y legítimo que así fuera. Muchos esperaron largos años para que recién comenzaran a contar lo vivido, los testimonios, a lo que así lo demuestran. Pero quedan muchos que aún no han dado el paso en contar su historia o la de nosotros, sobre todo en el exilio. Los compañeros se fueron para adentro y vieron, no han contado todo lo que se pasó. Y por otro lado, yo días antes de viajar me tocó de nuevo ir a declarar frente a los tribunales por compañeros que aún su familia los busca. Es muy duro, después de, yo estuve detenida en el 75, que esos familiares, esos hijos, sigan buscando a sus padres. Entonces yo creo que es una tarea que nosotros, los que estamos vivos, tenemos que ser mucho más perspicaz y mucho más en el tiempo irlo planteando. O sea, en cada rincón. Aquí ya no hay relatos que sean partidarios del uno o del otro. Reconstruir la historia implica reconstruir cada hecho cotidiano. La sobrevida de un pueblo en dictadura fue terrible. Entonces, yo creo que eso tiene que empezarse a desarrollar. Me contaba el detective que me interrogaba que recién compañeros mapuches están empezando a declarar e iban a desenterrar cuerpos enterrados en arcilla. ¿Qué es lo que uno ve en arcilla? Terroristas, mapuches, voltearon camiones. Eso es lo que se ve. Pero la prensa no dice, los compañeros están diciendo, aquí se dejaron los cuerpos de compañeros. Y eso es muy importante. Y por último, algo que plantea muy bien a Liliana, es la memoria generacional, que tiene diversas interrogantes. Son los jóvenes que uno encuentra en que quieren saberlo todo, porque vivieron en la oscuridad, le enseñaron la historia que la dictadura hizo. Por eso que es súper importante hoy día, cuando por decreto, porque no tiene parlamento este gobierno, quiere derogar lo que son las clases de historia. O sea, borremos lo que fue la historia reciente, rápido. Somos el país con número uno en obesidad infantil. Y el ramo va a ser optativo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De esta nueva derecha, que es igual, con rasgos diferentes, porque yo me dedico a hacer zapping dentro de diferentes canales, es igual a la brasileña, es igual a la de Macri en Argentina, es igual a la de Perú, es igual a todo. Nuestra América Latina está cambiando. Y está cambiando, para lo que yo hablo, son estos cómplices pasivos que fueron partidarios de la dictadura, estuvieron en la dictadura, en los gobiernos y diferentes cargos, y hoy día son elegidos por votación popular. Esa es la gran contradicción que tenemos, porque tenemos falencia de los partidos políticos, falencia de no haber escrito nuestra historia, esta memoria hay que escribirla, y hoy día cuando estamos, yo llamo que esta memoria generacional es la que tiene que tomar el relevo en la investigación oral, escrita, audiovisual, etcétera, teatro, lo que sea, pero tiene que decir y recontar lo que pasó. Yo creo que yo tengo esperanza en los jóvenes, igual que Liliana, son muy inquietos, pero quieren hacerlos todos, y lo que da miedo, los que venimos de vuelta, es que no los vuelvan a reprimir como nosotros nos reprimieron. Porque los que están gobernando, no hay que olvidarse, son los mismos de ayer, la misma ideología, el mismo programa, se adecua, cuando hablan de violencia, es la misma violencia, cuando tienen que reprimir a las mujeres, es lo mismo. Entonces yo creo que ahí no hay que perderse, la ideología es una sola. Y por último, a mí hay un tema que me interesa mucho dejarlo planteado, porque ustedes tienen historia con lo que fue el holocausto, los museos. Nosotros, la evidencia que dejan los museos de la memoria es el hito más importante en las sociedades que han recibido dictadura en la historia reciente. Pero hoy, en Chile, en el programa de este gobierno ultraderecha, está planteado, que alguien hacía la pregunta, está planteado de que tender a eliminar la historia reciente, ¿cómo? Terminando con los museos de la memoria. Porque dicen que nuestros testimonios son falsos. Eso no pasó. No sé en qué país pasaría, pero en Chile no pasó. Entonces, dispuestos a borrar la memoria, ¿y qué es lo que plantean en el programa de gobierno? Levantar y construir el Museo de la Memoria. ¿Alguien me podrá decir, de la democracia, alguien me podrá explicar qué es lo que es el Museo de la Democracia? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿alguien se le ocurrió levantar después que hay que levantar museos de la democracia? Si ellos golpearon la democracia que teníamos, mataron al presidente Salvador Allende, no le queda otra alternativa que morir, y las investigaciones recientes dan cuenta que mataron al presidente Frei Montalva, lo envenenaron. O sea, es una dictadura que mata dos presidentes, mata un general o dos generales, mata a cancilleres. Entonces, yo creo que hoy día este trabajo de memoria, yo lo digo gracias al programa, me ha significado estudiar mucho y aprender lo que es la violencia extrema. Gracias.
Merci beaucoup, Teresa. Ce témoignage a été, cette réflexion a été faite en espagnol et je vais tenter d'en donner la synthèse rapide, mais j'aimerais vous dire que tout ce matériel qui est là, et le texte de Teresa va être traduit en français et il sera accessible sur le site exil.ciph.com. Donc il y aura possibilité de le lire attentivement. Mais la réflexion de Teresa est une réflexion sur la violence, la mémoire, et aujourd'hui, si je traduis, la résistance, et comment continuer à résister, et comment continuer à faire de la politique, grosso modo. Et il faut que pour cela, il faut comprendre ce qui s'est réellement passé. Il faut se poser la question de comment se refait la construction et la reconstruction de la mémoire. Et la reconstruction de la mémoire implique d'aller chercher les invisibles, d'aller chercher les choses cachées qui se sont réellement passées et de lutter contre le mensonge politique dans cette déconstruction, cette fois-ci, des efforts de la mémoire. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Et peut-être rapidement, avant de passer la parole à Jean Sigler, qui revient de Lesbos, c'est pour ça que je me permets de le dire maintenant, c'est-à-dire que cet énorme travail que nous avons fait au Chili en 2012, où nous avons fait un colloque sur les droits de l'homme et la violence, et à l'université de Concepción, si vous aviez senti la tension, les larmes qu'il y avait dans la salle, parce que c'était un espace où tout à coup les choses se sont dites. Et c'était extrêmement impressionnant à vivre. Et il y a eu donc des livres qui ont été publiés, notamment des témoignages de trois femmes chiliennes, notamment le livre de Teresa, notamment une traduction des féministes matérialistes. Et tous ces livres existent sur le site de l'Armatan, de l'éditeur Armatan, et sont en ligne en français et en espagnol. Donc, j'invite à aller regarder tout cela qui peut faire comprendre un peu mieux tout ce que ce travail et ce qu'il y a en arrière-fond de l'immense travail qui s'est fait en rapport avec le Chili. Voilà, je m'excuse Teresa, je ne fais pas de la traduction littérale, mais nous allons cette fois-ci faire un saut entre le Chili et Lesbos. Alors je vais passer la parole à Jean Sigler.
Voilà. Chers amis, chers camarades, d'abord je remercie de l'invitation qui m'est faite de m'exprimer rapidement, pas longtemps. D'abord, je voulais dire, le film que j'ai vu en DVD, que Yara a eu la gentillesse de m'envoyer, est excellent. C'est un témoignage excellent, d'abord artistiquement excellent, et par l'authenticité des témoignages. Parce que c'est vrai que la cinéaste a fait un film magnifique, artistiquement magnifique, mais elle a réussi à faire parler vrai ceux qui témoignent. C'est-à-dire de dire ce qui était difficile souvent, mais avec une authenticité, une sincérité une intimité dévoilée. Je trouve que c'est un très grand film de par les témoignages aussi. Et d'avoir réussi à faire parler ces témoins est aussi formidable que d'avoir fait le film artistiquement. Et pour ça, je trouve que c'est un très grand film qui aura certainement une longue vie et sera importante pour l'évolution de la conscience collective de notre pays, mais des pays européens et d'Amérique latine. Alors, je vois ici gentil les réflexions sur le coup d'État du Chili. C'est pas devant vous qu'on va discuter du coup d'État du Chili. Vous savez, le crime qui a été commis, vous étiez victime. C'est pas moi de faire des commentaires. Je dis simplement ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela. C'est exactement la réédition de la stratégie meurtrière de l'impérialisme, créer le sabotage à l'intérieur, le blocus à l'intérieur et à l'extérieur, étouffer le pays, le discréditer par une campagne de diffamation internationale qui est incroyable, la presse suisse, la presse occidentale sur le Venezuela. Ben c'est une presse honteuse. D'abord, fausse, ceux qui l'affirment sont faux, et faux. Et c'est une diffamation organisée qui doit faire honte à cette grande, soi-disant grande presse, y compris la Suisse, par rapport à la résistance et à l'attaque que subit le peuple du Venezuela. Moi, j'étais longtemps activement politique, maintenant je suis à l'ONU à Genève, et je peux vous dire que l'arrivée des réfugiés chiliens, c'était une renaissance pour la gauche suisse. Et la gauche chinoise en particulier. Et c'est incroyable combien nous avons tous profité de la compétence militante, de l'intelligence analytique et de l'énergie, la vitalité et de la joie de vivre aussi, il faut le dire, de ces camarades chiliens, hommes et femmes, échappés à l'horreur fasciste chilien, mais ils nous ont donné beaucoup, beaucoup. Et je garde une reconnaissance et une admiration profonde pour ces camarades chiliens qui ont travaillé, qui sont là et qui alimentent ce qui reste d'espérance socialiste et révolutionnaire en Suisse, c'est-à-dire presque rien. Enfin, ils continuent à témoigner d'une façon tout à fait remarquable. Alors voilà, Marie-Claire, tout à l'heure, a parlé de résistance. La tragédie chilienne, vous en avez parlé formidablement, toutes deux, de façon formidable, et face aux témoins, je vais me taire, mais je suis maintenant, vous le savez, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, et je reviens il y a deux jours de Lesbos. Vous savez que, je voulais vraiment dire cinq minutes, ce que j'ai vu, parce que le combat continue, la tragédie se reproduit, mais d'une façon différente, mais pas différente par rapport à la douleur, à l'humiliation subie, et pas par rapport à la responsabilité qui est la nôtre de témoigner et de mettre fin à ces tragédies des réfugiés qui ont refusé l'asile sur la terre européenne maintenant. Quelque chose a changé radicalement depuis les années 70, puisque la société civile s'est formidablement réveillée chez nous à l'époque. On s'est reconnu dans le socialisme démocratique de Salvador Allende. On s'est reconnu, évidemment, on a accueilli avec gratitude et admiration, je le répète, les camarades chiliens et chiliennes qui arrivaient. Aujourd'hui, c'est le refus. Il y a 17 000, je parle de la stratégie européenne de l'EFRA, on appelle la déterrence. Il y a 5 îles face à la Turquie, Chios, Samos, Lesbos, etc., qui contiennent aujourd'hui, derrière des fils de fer barbelés, un peu plus que 17 000 réfugiés qui ont réussi à traverser le détroit entre les côtes turques et ces îles dans la mer Égée. Le détroit est en général très, très limité, 2 km pour Chios, 7 km pour l'espace, et que l'Union européenne essaye de refouler si Frontex, la troupe qui garde les frontières de cette Europe, de cette frontière Europe, n'arrive pas à intercepter les bateaux et les renvoyer en Turquie, eh bien, ces bateaux frêles en général, tout à fait dangereux, évidemment, il y a tout le temps des morts dans cette courte traversée. Ceux qui réussissent à passer, qui arrivent à Lesbos, je parle maintenant de Lesbos, qui est le plus grand de ce qu'on appelle, que les Européens appellent, l'Union Européenne appelle des hotspots. Derrière des barbelés, ils retiennent les réfugiés pour empêcher qu'ils atteignent évidemment le continent. Et pour empêcher, théoriquement, l'Europe dit on les retient pour examiner sur les îles avant qu'ils peuvent aller sur le continent, ils retiennent sur les îles, on doit examiner leur demande d'asile. On doit examiner leur demande d'asile. Or, l'Europe ne le fait pas. Il y a des familles que j'ai rencontrées qui sont là depuis 3 ans, qui est belle, ancien torturé, a été torturé soit en Afghanistan, soit en Irak, soit en Syrie, soit ailleurs. Des enfants qui sont là depuis 3 ans dans des conditions effroyables. Les toilettes sont une toilette, et en général, elles ne fonctionnent pas. Elles sont tout à fait crasseuses, c'est dégueulasse. Pour 200 personnes, je parle de l'espace de Moria, de ce camp, de véritable camp de concentration. La nourriture qui est payée par l'Union européenne à l'armée grecque, puisque Moria est une ancienne caserne faite pour 1200 personnes. Maintenant, il y a 12 000 personnes dans Moria, dans la caserne et dans les oliviers alentours. La nourriture, c'est les généraux qui font des accords avec des caïds et qui ont reçu 3 milliards d'euros depuis 2014, 3 milliards d'euros, et qui font, les officiers grecs, les généraux font des accords avec des catering, des entreprises de catering, c'est-à-dire qui préparent l'industrie sur le continent. Ça vient par bateau, 2 fois par jour. J'ai assisté à 8 distributions de nourriture. Pour 3 distributions de nourriture, la viande et les poulets puaient et étaient jetés immédiatement par les réfugiés. C'était immangeable, dangereux même si on l'avait mangé. Et dans les 5 autres distributions, c'était une nourriture souvent très difficile, soit trop totalement scellé, soit plein de porcs, par exemple, qui étaient évidemment inadmissibles pour l'immense majorité des réfugiés qui sont des musulmans. Il y a une sous-alimentation organisée due à la corruption par l'armée grecque qui fait ses contrats, les généraux empochent évidemment l'argent, et l'Union européenne n'intervient pas, parce qu'elle fait partie de l'effroi à créer. Parce que la stratégie, je le répète, c'est de créer des conditions de détention telles que ça se sait dans les pays d'où proviennent les réfugiés, et que moins, ça c'est la théorie des dirigeants de Bruxelles, et ça se sait, et donc ça va provoquer une hésitation de quitter le pays, de se mettre en route, de se réfugier. Alors, cette stratégie de l'effroi est à la fois une violation totale de la Convention sur les réfugiés des Nations Unies de 1951, puisque le droit de dépôt de passer une frontière, il n'y a pas de passage illégal de frontière pour quelqu'un selon la Convention, qui est persécuté pour des raisons religieuses, ethniques ou politiques. Et un nombre élevé de droits individuels de l'homme, tels qu'ils sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le 31
droit de déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, droit à l'alimentation, droit à l'école, droit à la médecine. Il y a un médecin dans mon IA, un médecin militaire. Donc, pratiquement impossible pour une femme enceinte, pour quelqu'un qui est qui a la diarrhée sanglante par ses nourritures, ou qui a des poux, des maladies de la peau par le manque total d'hygiène. Il n'y a pas d'eau chaude, par exemple. En hiver, la douche, faut l'oublier. Il n'y a pas de sécurité, un poste de police, mais qui est fermé la nuit dans le camp. Les femmes, souvent, se font évidemment agresser, ne vont plus vers les toilettes ou de ce qui reste de toilettes. Et donc, il y a les excréments qui se répandent autour de ces tentes, de ces containers ou de ces abris que les gens doivent construire eux-mêmes parce qu'il n'y a pas assez de temps, par quelques branches et par quelques planches de plastique. Donc la théorie, enfin la stratégie appliquée par l'Union européenne, la Commission de l'Union européenne, est refuser, retarder le plus possible l'examen, et dans ce monde très très limité, de la demande d'asile. Ça, c'est la première, c'est la violation de la Convention. Et ensuite, il y a tous les droits individuels, je l'ai dit, je me suis interrompu moi-même, droit à l'habitat, droit à la santé, droit à l'école, droit à la nourriture, etc., qui sont définis clairement et qui sont violés sous le drapeau étoile sur fond bleu de l'Union européenne. L'Europe, c'est nous, hein, quand même. Il y a une responsabilité collective à ce fond-là. Bon, je reviens à la stratégie. La stratégie est deterrence, comme on dit en anglais, ou effroi en français. Faire de sorte que l'information se diffuse en Syrie, en Afghanistan, partout où on peut, de l'enfer que c'est Moria. Et croire et espérer ensuite que ça démobilise le mouvement des réfugiés, la décision de partir. Or, c'est une folie totale. Vous lisez les journaux comme moi, vous savez ce qui se passe en Syrie. Maintenant, c'est Idlib, c'est le sud-est, les villes du sud-est de la Syrie, qui est la dernière enclave libre, qui est bombardée jour et nuit, et des bombardements ciblés d'abord sur les infrastructures, les hôpitaux, les écoles, ensuite sur les quartiers d'habitation. Si vous vivez ça, et vous habitez là, avec vos enfants, votre femme, etc., rien, absolument rien au monde, aucun effroi au monde est assez fort pour vous empêcher de fuir. Donc la politique de l'EFRA, la stratégie de l'EFRA de l'Union européenne est à la fois un crime contre l'humanité, parce qu'une violation massive, répétée, de longue durée, des droits de l'homme, collectifs et individuels, crime contre l'humanité, et en même temps, politiquement totalement inefficace, parce que les gens continuent à arriver. Même chose pour la Méditerranée centrale, même chose pour le détroit de Gibraltar. Les réfugiés continuent à fuir pour leur vie, pour rester en vie sur cette planète. Bon, je termine, je ne vais pas m'énerver. Le Conseil des droits de l'homme, je pense qu'on aura une majorité pour obtenir la condamnation de l'Union européenne et exiger la fermeture des camps, des 5 hotspots, comme disent les Européens. Mais pour ça, il faut une mobilisation populaire. Il faut, comme du temps des Chiliens, où moi j'étais au Conseil national, le Conseil fédéral était nullissime, ton camarade socialiste Rabel, qui était ministre des Affaires de la Suisse en 73. On était dans son bureau, on me dit, mais non, enfin, on ne va pas donner l'asile à des Chiliens à l'ambassade de Suisse, etc. On n'est pas là pour défendre les communistes, etc. Horrible. L'opinion publique s'est dressée en Suisse, je parle en France, en Allemagne, en fait, on a forcé notre gouvernement, qui avait une position indigne, on l'a forcé d'ouvrir les portes et d'accueillir les Chiliens. Et encore une fois, c'était un bénéfice incroyable pour le peuple suisse. Formidable. La même chose doit se passer maintenant. Mais maintenant, c'est le silence. Vous savez, 25-26 mai, il y a une semaine, il y a eu les élections européennes. Le problème des réfugiés n'a pas été touché par aucun des partis. Rien, pas évoqué. Vous n'avez pas entendu un mot de ces tragédies effroyables qui se reproduisent en Méditerranée, dans le détroit de Gibraltar et sur la mer Égée. Donc pour que le Conseil des droits de l'homme ait la possibilité, la force d'obtenir l'interdiction à l'Union européenne de l'Espos, par exemple, de Moria, de ce camp de concentration, le thème de camp de concentration et de Médecins sans frontières, c'est pas de moi, j'ai eu assez de processus de dos dans ma vie, donc je le répète, ce terme camp de concentration, c'est l'expression utilisée par Caroline Willemsen, la chef de la mission des Médecins sans frontières à l'Espace, pour que ces camps de frontières, concentration et l'incroyable souffrance, destruction humaine, il y a tout le temps des automutilations des enfants, des suicides de personnes, aussi d'enfants, et cet hiver, 5 enfants sont morts de froid uniquement à Moria. Pour que cette horreur cesse, il faut une insurrection des consciences, une mobilisation de la société civile. Et je suis très heureux de parler devant vous, qui êtes des militants de celle de la terre, quoi, l'avant-garde de ces combats-là. Voilà. Et maintenant, je fais le rapport. On essaie de faire des alliances à l'intérieur du Conseil, et ensuite, il y a le vote en septembre. Et ensuite, quand la résolution passe, pour la mettre en œuvre, il faut un nouveau rapport de force sur le continent européen. Malgré le fait, c'est vrai, que la droite progresse partout, la xénophobie progresse partout. Pensez que, à la présidentielle, le Front National a eu 11 millions de voix, Marine Le Pen, 11, les fascistes de France, 11, l'extrême droite, xénophobe, anti-réfugiés, 11 millions de voix dans le pays le plus cultivé de la Terre, enfin, probablement. C'est incroyable. Et la réédité, ce résultat, avec 2 millions de plus, maintenant plus européens. Donc nous avons des adversaires effroyables qui pèsent sur les gouvernements nationaux des 28 pèsent sur l'Union européenne, sur la Commission, bien sûr. Donc nous avons des ennemis qui semble croître, l'AFD en Alliance Deutschland, en Allemagne, dans la première puissance économique, troisième puissance économique du monde.
C'est 33%.
Hein?
33%.
Oui, et la plus de députés que le SPD, que le Parti Socialiste. Donc nous avons des ennemis sérieux, importants, mais nous étions victorieux dans l'accueil. Dans la tragédie chilienne, et nous serons victorieux aussi pour la fermeture des camps de concentration en mer Égée, pour l'abolition de la stratégie de l'effroi par l'Union européenne. Nous serons victorieux si nous savons, si nous sommes assez forts, déterminés, énergiques pour nous mobiliser. Voilà, je vous remercie.
Merci. Merci Jean Sigler. Je crois que sur ces mots, c'est vrai qu'on peut se rappeler qu'il y a eu 1 200 000 réfugiés qui ont été reçus en Allemagne et 40 000 en France et 30 000 en Suisse, il n'y a pas très longtemps. Mais bref, ce débat-là, il va continuer. Donc je ne peux que vous inviter demain à venir à 16 heures pour avoir, si vous êtes intéressé sur le processus et le résultat de la recherche sur le désexil de l'exil. Et puis, surtout à la fête le soir, parce qu'il y aura un groupe de Kurdistan qui sera là. Et il y a quelqu'un qui va parler de ce qui se passe avec les Kurdes. Et ensuite aussi, donc on fera la fête. Et puis le samedi matin, Il y aura la question de la mémoire qui sera reprise, et l'après-midi, donc, c'est est-ce qu'on va continuer quelque chose ? Est-ce que ça a du sens de faire une autre étape après 10 ans de travail et après 40 ans de travail collectif ? Alors, voilà, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci infiniment à Yara et son compagnon de nous avoir prêter ce film et d'être venu, parce que c'est vrai que là, ça nous réveille la mémoire. Ça nous la réveille. Et puis, les artistes, c'est fantastique quand même. Alors, merci infiniment. Et puis, à bientôt.